de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de films qui sont dans les salles. Et puis aujourd'hui, nous allons écouter des réalisateurs, deux réalisateurs bien différents. Il y en a un qui est chinois, c'est Ya Zhangqie Manu.
Et je vous parlerai donc de son film Les Feux Sauvages.
Alors Ya Zhangqie, on ne l'a pas rencontré, il était à Cannes, donc on a récupéré un extrait de la conférence de presse. En revanche, toi Sophia, tu as rencontré un réalisateur français.
Oui, j'ai rencontré David Olofen pour la sortie de son film Le Quatrième Mur.
Toi, Guillaume, tu vas parler d'un film qui est une vraie réussite et qui a remporté d'ailleurs le Grand Prix du Festival d'Annecy.
Oui, je vais vous parler du dernier film d'Adam Elliott, hein, Mémoire d'un escargot.
Et ce sommaire ne serait pas complet si nous ne parlions pas du dossier Mal d'Aurore. C'est un retour sur l'affaire Dutroux au travers de la quête obsessionnelle d'un jeune gendarme. Nous commençons avec ce film.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Mon Dieu, me suis-je trompé d'illustration sonore? N'ai-je pas pris un bout de la bande-annonce d'un film de Gaspard Noé? Eh bien non, pas du tout. Il s'agit bien d'une partie de l'ambiance du dossier de Mal d'Aurore, dernier film de Fabrice Duvels, réalisateur belge à qui l'on doit des films assez inégaux, comme Calvaire, Vignane, Adoration, ou encore son précédent film Inexorable, qui avait partagé la critique et pas intéressé du tout les spectateurs, puisque moins de 50 000 personnes s'étaient déplacées voir Benoît Poulvorde. Alors si on pouvait résumer la vision cinématographique de Fabrice Duvels, ce serait sans doute le lien qu'il tisse entre le cinéma de genre et le cinéma d'auteur. Son premier film Calvaire en était une parfaite illustration, un survival dans les Ardennes qui dépeint son environnement et les fêlures des personnalités. Pour le dossier Mal d'Aurore, Duvels s'empare d'une des grandes affaires judiciaires des années 90 en Belgique, l'affaire Dutroux, une affaire d'enlèvement de jeunes filles donc qui a bouleversé le pays, laissant les habitants interrogatifs sur les ressources policières et judiciaires mises en place pour résoudre cette vaste affaire de pédophilie qui s'est tout de même terminé par l'arrestation de Marc Dutroux.
On est tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il ne se passe rien.
Marcel te tue, c'est lui.
Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Aurore.
De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans.
Mal d'Aurore est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant.
Nous sommes donc en Belgique en 1995. La disparition inquiétante de deux jeunes filles donc bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Paul Chartier, interprété par Anthony Bajon, est un jeune gendarme idéaliste. Il a pour mission de rejoindre donc l'opération Mal d'Aurore montée pour surveiller un suspect récidiviste. Mais confronté à une guerre des polices, à un dysfonctionnement judiciaire, le jeune gendarme décide de dépasser le cadre légal, de s'obstiner dans ses intuitions en allant jusqu'à l'obsession. Il est convaincu que le type qui est surveillé fait partie d'un réseau plus vaste, mais lancé dans sa traque qui vire à la paranoïa, il ne trouve personne pour l'aider à prouver ce qu'il avance.
T'as rien entendu?
Vous avez ignoré le cadre de la perquisition.
Je les ai entendus, je suis pas fou.
Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête.
Dans mon coffre, c'est pas notre boulot.
Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire.
Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur.
Là. C'est terminé, Chartier, là.
Non, mais non,
mais putain. Elle a besoin de toi.
Je suis un flic. Tu peux rien en faire.
Alors, on sent peut-être que la tête explose. Si l'opération Mal d'Aurore devait se placer dans une lignée cinématographique, ce serait dans celle, ai-je lu dans un article très bien documenté du Monde sur Charleroi, ville de Dutroux, eh bien ce serait Memories of Murder de John Bonho sur un violeur et tueur en série qui ensanglanta la Corée du Sud, ou Zodiac de David Fincher, donc sur les crimes d'un tueur qui nargue les policiers, une affaire jamais élucidée. Alors dans ces trois films, l'investigation devient une traque impossible, où les enquêteurs sont dépassés par leurs défis et par eux-mêmes car ils ne parviennent pas à démasquer le criminel. Mais dans le style, Duvels n'emprunte rien aux deux autres films qui sont de vrais bijoux de mise en scène, donc le réalisateur belge démérite. Il prend parti de suivre son enquêteur, un jeune gendarme donc idéaliste avec un passé judiciaire, une relation difficile avec sa mère, un jeune marié, bientôt père de famille, qui va finir par s'écarter petit à petit de sa vie sociale et familiale. Alors il y a de cela aussi dans le film de Duvels, au-delà du dysfonctionnement des services de police éloquents, Marc Dutroux arrivera quand même à s'échapper lors d'un passage au tribunal, c'est quelque chose de complètement extraordinaire. Le réalisateur montre comment cette affaire a tourmenté un pays, s'est insinué dans les familles, dans tous les foyers et a fait douter de nombreux Belges sur ceux qui étaient censés les protéger et les gouverner. La dimension sociale est évidente, mais dans ce film qui s'étire sur 2h30, elle finit par s'estomper au profit du combat d'un homme contre tous les autres. Un combat qui vire jusqu'à la paranoïa, l'obsession et la tentation de se faire justice. Plus le film avance, alors qu'on aperçoit régulièrement des teintes rouges sur l'image, les séquences sont de plus en plus emplies d'une dimension chargée d'émotions, alors contradictoires, dissonantes, avec un son écrasant. L'ensemble prend l'allure d'une métaphore sur le dysfonctionnement étatique qui vient se prolonger chez l'individu, venant ébranler l'idéal. Bien qu'il se soit documenté, Duvels prend ses aises avec la réalité. Le gendarme est un justicier blessé, une bête égarée qui se confronte au mal sans pouvoir s'arrêter. Sergi Lopez, qui incarne De Dieu, alias Dutroux, est redoutable, comme Anthony Bajon, incapable très vite de s'aventurer dans la fragilité. Les personnages secondaires parmi les suspects sont volontiers à la marge, et là on retrouve un peu l'ambiance des premiers films de Duvels. L'étrangeté est donc de mise dans ce film qui est un film d'enquête. C'est l'opération Mal d'Aurore de Fabrice Duvels en salle depuis le 15 janvier. Yaz Yankier utilise des images personnelles et des extraits de ses précédents films pour construire une fable sur les mutations de son pays. Nous parlons des Feux Sauvages.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Récemment, le très beau Grand Tour m'avait laissé certains spectateurs sur le bas-côté. Je crois que t'en faisais partie. Mais le cinéma de Gomes donc, exige une attention de la part du spectateur qui ne vient pas simplement se divertir. Il doit aussi s'investir, ne pas attendre que le cinéaste vienne le chercher. C'est un peu au spectateur de faire le travail. Mais comme souvent dans des œuvres d'art un peu exigeantes, les efforts finissent par être récompensés. À bien des égards, les Feux Sauvages ne s'apprivoisent pas facilement, notamment pour ceux qui ne connaissent pas la filmographie de Jia Zhangke, sans doute le réalisateur chinois peut-être le plus important de ces 30 dernières années. La comparaison alors, entre les deux films n'est pas fortuite. Ils se rejoignent à bien des égards, déjà par leur sujet. Feu Sauvage est centré autour d'une histoire d'amour passionnée, mais fragile, entre Bin, un gangster, et Kia Kao. Apparemment, alors au début, on se doute que c'est un peu une chanteuse, mais on ne sait pas trop. Mais un jour, Bin disparaît et la jeune femme part à sa recherche. Se profile alors une quête amoureuse à travers le temps. L'évolution plastique du film, de sa forme documentaire à un cinéma plus ample, plus romanesque en scope, est synchrone avec l'évolution du cinéaste, de ses débuts jusqu'à son dernier chef-d'œuvre, Les Éternels. Alors autant prévenir l'auditeur, Les Feux Sauvages se présentent, comme un exercice godardien, qui rappelle aussi un peu le dernier Carax. Il s'agit d'un film de collage, composé de rushs et d'extraits de films de Jia Zhangke, de ses débuts à aujourd'hui, avec comme fil conducteur la présence lumineuse de ses comédiens fétiches, Zhao Tao et Li Zubin. Autant rassurer le spectateur novice, le film a beau s'adresser aux admirateurs du cinéaste puisque défilent les images donc de plateforme, Still Life, Au-delà des montagnes et Les Éternels, il peut emporter l'adhésion pour peu que l'on soit sensible à un cinéma sensoriel. Un extraordinaire travail de montage apporte une étonnante fluidité à ce magnifique essai qui peut toucher tout un chacun à condition de se laisser aller aux errances de son héroïne, à la fragmentation d'un récit alors qu'il ne raconte pas une histoire mais diffuse une atmosphère mélancolique. Les extraits s'assemblent tellement bien qu'on ne cherche pas forcément l'origine l'origine de la source. Alors l'entre-soi redouté d'une telle expérience mute en une mini-fresque étalée sur 25 ans, épurée et romanesque. Alors voir Zhao Tao vieillir sous nos yeux, hein, sans aucun artifice, provoque une émotion vive, hein, une irruption du réel au sein d'une fiction très aérée, comportant peu de dialogue, sans voix off, alors contrairement à Grand Tour, hein, le film laisse beaucoup de trous de respiration, ne figeant jamais le récit. Par contre, il est rythmé par une musicalité qui est bienvenue à une succession de chansons populaires et de tubes contemporains. À cela s'ajoute aussi une cartographie sociale, politique et économique de l'évolution de la Chine de 2000 à aujourd'hui, hein, avec son changement de régime. Alors lucide mais prudent, hein, Jack Zhangke se prive de tout commentaire sur les mutations de son pays, hein, mais les images parlent pour elles-mêmes, hein, des Jeux Olympiques de 2008 au Covid, en passant par les avancées technologiques. N'oublions pas que le film est une production 100% locale, que le cinéaste ait eu une telle liberté de ton sans pour autant être dans la critique frontale, détonne au sein d'une industrie fortement marquée par la propagande la plus éhontée. Alors quand on pense que les ex-super-auteurs comme Chen Kaige ou Zhang Yimou sont devenus en fait des porte-paroles officielles du régime à travers leurs films qui vantent le système en place, il est réconfortant de voir un artiste parvenant à contourner ses contraintes. Les Feux Sauvages, hein, pourraient ressembler à une œuvre bilan, un film testamentaire, mais bon, il est réalisé par un grand cinéaste contemporain qui n'a quand même que 54 ans. Hein. Une vingtaine de films derrière lui, et espérons-le, beaucoup de projets à venir. Hein. Alors pour les auditeurs qui souhaiteraient découvrir sa filmographie, hein, je conseille entre autres son premier long, Xiaowu, artisan pickpocket, tourné en 16 mm, aussi beau que du Bresson, le très contemplatif Plaisir Inconnu, le très effrayant Touch of Sin, puissante réflexion sur la violence du régime, à travers trois histoires, et puis enfin Au-delà des montagnes et Les Éternels, qui sont deux magnifiques mélos. Voilà.
À noter que Les Feux Sauvages de Yazanke étaient en compétition à Cannes, il n'a rien obtenu, contrairement à Grand Tour de Miguel Gomez dont tu parlais et auquel tu faisais référence, hein, pour
oui, je trouve que c'était assez justifié finalement la mise en scène, parce que il y a un grand travail plastique quand même, surtout dans la deuxième partie où il évoque le cinéma notamment de Sternberg. Enfin, moi j'ai trouvé ça très 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 beau.
Nous en parlerons hors antenne, nous allons maintenant écouter le réalisateur chinois donc, qui était en conférence de presse à Cannes.
Ce que j'ai tourné au tout début, c'était vers l'an 2000. Et lorsque je regarde ce que j'ai tourné à l'époque, eh bien, je m'aperçois que c'était un défi sur le plan technique, parce que nous tournions dans des cassettes et c'était assez difficile de transposer tout cela dans un disque dur. Et lorsque je regarde ce que j'ai tourné à l'époque, je me rends compte que c'était une vie complètement différente que l'on menait en Chine. Les gens ont changé d'apparence, sont s'habillés différemment il y a une vingtaine d'années. Même la façon dont on se déplaçait, dont on se meuvait, dont on bougeait, était différent à l'époque, au tout début des années 2000. Et lorsque je regarde tout cela, je me rends compte que j'ai filmé quelque chose qui m'a donné matière à réflexion quant au changement des gens, au changement de leur mode de vie. Et à l'époque, c'était le début du numérique, et ce numérique nous a fait vivre une révolution. Et en même temps, pour ce qui est du contenu culturel de l'époque, les gens vivaient à leur façon. Ils vivaient tel qu'on vivait à l'époque, il y a plus de 20 ans, et qui est bien différent de la façon dont on vit aujourd'hui. Eh bien, j'ai été très satisfait d'avoir ces extraits que j'ai pu filmer en l'an 2000 et de pouvoir filmer tout cela avec une petite caméra numérique pour essayer de saisir les sentiments, les émotions que l'on pouvait avoir à l'époque.
Voilà, film devant lequel il faut rester attentif, hein, en tant que spectateur. Les Feux Sauvages de Yazanke est en salle déjà depuis le 8 janvier. Laurent Lafitte, dans une adaptation d'un livre de Sorge Chalandon, nous parlons du quatrième mur et c'est l'interview, la deuxième interview de cette émission.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Le quatrième mur est une adaptation libre du roman éponyme de Sorge Chalandon, prix Goncourt des lycéens en 2013. Alors l'auteur, écrivain et journaliste fut parmi les premiers à arriver dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila à Beyrouth après le massacre de 1982. Alors cet événement tragique perpétré par les phalangistes chrétiens, a laissé une marque indélébile sur lui, hanté par l'image d'une jeune femme notamment, qu'il a trouvée là, violée et assassinée. Ne sachant rien d'elle, Chalandon lui redonne vie dans son écrit, dans son récit. Il la nomme Imane, jouée ici dans le film de David Holofernes par la magnifique Mana Lisa, et en fait une réfugiée palestinienne, institutrice et comédienne, choisie pour jouer Antigone dans un projet théâtral ambitieux. Georges, alter ego narratif de Sorge Chalandon, reprend ce projet laissé par Sam, son mentor libanais, juif, gravement malade, monter donc la pièce Antigone d'Anouilh sur la ligne verte, ligne de démarcation immatérielle qui divisait Beyrouth entre musulmans à l'ouest et chrétiens à l'est. Ce choix de pièce n'est clairement pas anodin. Antigone, figure de résistance en 1944, incarne ici une forme de rébellion artistique et politique hautement symbolique face à l'absurdité de la guerre civile. L'objectif étant de proposer une autre logique que celle de la guerre, que celle de la compromission. Et ce, bien que l'art plus fort que la guerre semble un message utopique, car comme le rappelle l'auteur, Sorge Chalandon, une balle de 9 mm est plus rapide qu'un alexandrin. Mais l'art, pendant et malgré la guerre, pourrait bien être essentiel.
Toutes les communautés sont partantes.
Français, French.
Maronites, chiites, druzes, palestiniens.
J'y comprends rien, moi, à cette guerre. J'ai jamais foutu les pieds au Liban.
Ça va être très bien.
Merci.
Quand tu arrives dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça?
Ouais. Ça va?
Salut. Il y a un petit problème. L'acteur chrétien, il ne peut pas passer la ligne de démarcation. Il faut que cette pièce existe. Il faut qu'on existe.
La troupe se compose de comédiens et comédiennes issus de toutes les communautés qui s'opposent, donc les Palestiniens, chiites, chrétiens maronites, druzes et juifs, pour symboliser une alliance temporaire et utopique. Mais la guerre, implacable, infiltre et corrompt cet espoir fragile. Le film, tourné au Liban, fait rare pour un film sur le sujet, bon, ils sont plutôt habituellement tournés au Maroc. Donc le film de David Holofernes offre une immersion sensorielle et subjective dans l'atrocité de cette guerre. Avec Georges, et comme lui, notre immersion en tant que spectateur du film se fait via un regard extérieur. Alors par exemple, le choix de ne pas sous-titrer l'arabe pour assurer un point de vue déconnecté, un peu ignorant, crée une confusion récurrente qui s'accorde bien aux strates de complexité que le protagoniste découvre sur le terrain. Lui qui débarque de France avec ses ambitions et sa sympathie de gauche pro-palestinienne et qui réalise que sur place et tout est en fait bien plus nuancé qu'il ne l'imaginait.
Tu comprends qui dans cette guerre?
Je suis pas pour la guerre, je suis pour la paix.
Tu poses aucune question, tu ne regardes pas dans les yeux. Tu es impur. Jouer un rôle, c'est lié au péché, c'est haram.
Ici, on manque de tout. Je ne comprends pas ce que vous venez faire avec le théâtre, là, maintenant, dans notre pays.
On va la monter, cette pièce, un jour.
Ici, c'est le front entre l'Orient et l'Occident. On est en première ligne.
Des acteurs, ce sont des soldats. Toi, tu l'oublies peut-être, mais la guerre, elle n'oublie pas.
Tu vas arrêter la guerre pendant 2 heures? Mais tu sais qu'est-ce que c'est, la guerre?
Tu dois fuir, Georges. Maintenant, tu sais pourquoi tu es venu.
What you do here?
Théâtre.
Georges est un personnage qui traverse sans cesse le quatrième mur, c'est-à-dire la frontière qui sépare la scène du public, et en tant que metteur en scène, il va lui-même devenir personnage de tragédie. L'excellent Laurent Lafitte, qu'il incarne, confie s'être rendu sur place sans trop se documenter pour rester justement en phase avec son personnage, ne pas avoir de longueur d'avance sur lui, ce qui est remarquablement illustré par une scène de nuit face à des tirs. Georges demande « Mais qui tire sur qui ?» Et son guide, Druze, lui répond « C'est le Liban qui tire sur le Liban ». Le quatrième mur est un film coup de poing, tragique et actuel, aux mises en abîme plurielles, révélant l'absurdité de la guerre et la puissance fragile de l'art face à la violence.
Et tu as rencontré David Holofernes, le réalisateur de ce film, lors du Festival Méditerranéen, et nous allons l'écouter.
Tu vas pouvoir m'emmener partout?
Je suis payé pour ça.
Ça y est, on est passé.
Baisse la tête.
Précisément, en tournant le quatrième mur, j'ai eu le sentiment que dans ce pays, vraiment, le passé et le présent se tricotent sans arrêt. Ils n'arrivent pas à être tricotés, plutôt. Comme j'expliquais hier à l'issue de la projection, quand j'ai tourné le quatrième mur à Beyrouth, on s'est appuyé sur tous les stigmates de la guerre qui sont encore présents dans les années 90, de la guerre qui s'est arrêtée en 90, à savoir les impacts de balles dans les murs, les maisons détruites. Et donc, déjà, de faire un film qui est censé se passer dans les années 80, le faire en 2022, et de voir que beaucoup de choses n'ont pas changé, c'est un peu troublant. On a tourné des scènes dans les camps palestiniens, pas à Sabra Shatila, mais dans un autre camp qui s'appelle Mar Elias. Le tournage a eu lieu entre deux commémorations de souvenirs, parce que les massacres de Sabra Shatila ont lieu, il y avait eu lieu 40 ans plus tôt. Donc, tourner un film, se replonger dans le passé alors que les commémorations entourent le tournage, etc., bon, c'était très troublant aussi.
George, lève-toi, allez.
Moi, j'ai lu ce livre, Le Quatrième Mur, parce que j'aime Sorcha London. Le travail d'adaptation, elle a consisté à un travail de cinéma. Comment reproduire avec les armes du cinéma ce sentiment de tragique et ce sentiment de coup de poing dans le ventre, plus que de respecter la narration. Le Quatrième Mur, il est sans cesse centré sur le ressenti de George. Et tous les choix de mise en scène consistent à essayer de rapprocher le spectateur du ressenti de George.
C'est la première fois à Beyrouth, n'est-ce pas ?
Ouais.
Hey, voilà.
Vous venez pour le théâtre ? Le théâtre se fait résistance, absolument. Oui, en fait, il y a une sorte de pari. La création de cette troupe crée un microcosme théâtral, utopique. Il y a ce petit monde qui existe temporairement, donc à Beyrouth, ce petit monde composé de toutes les communautés qui sont censées se faire la guerre. Et évidemment, il y a une portée symbolique, c'est-à-dire que George et Sam avant lui espèrent que ce petit microcosme utopique théâtral va donner la leçon quelque part au reste de la société, et que les gens, par cet exemple, vont se rendre compte qu'il y a d'autres logiques que la guerre. Ce film-là, il met en confrontation deux mondes, un petit monde, un microcosme utopique, et tout le reste de la société qui est plongé dans la guerre. Et je pense que le spectateur, et nous tous, on a envie que ça soit le petit microcosme qui impacte sur le reste de la société. Et le film, amèrement, je dirais, montre que c'est le contraire qui se passe, que c'est la guerre qui vient s'immiscer dans ce petit microcosme de pureté au départ, qui vient dérégler les relations humaines, qui vient insuffler le sentiment de vengeance au milieu de ce microcosme qui est au début pur. Donc c'est un processus de corruption. Mais j'avais vraiment envie de montrer la guerre comme ça, comme une chose abominable, comme une force corruptrice de l'âme humaine. L'art, c'est des défaites magnifiques. Je pense que le monde bouge avec des Georges, avec des Nakhon, avec des Yevkiné, et que même si ça échoue, non, une pièce de tête n'arrête pas concrètement une guerre hein, comme ça. Mais s'il y a une seule chance de changer les choses, c'est avec ce genre de démarche. Certainement pas avec les grandes décisions politiques qui sont prises au Proche-Orient en ce moment.
C'est beau ça, l'art pour faire changer le monde. En tout cas, c'est un des sujets donc, de ce film de David Holofernes que nous écoutions, Le Quatrième Mur, en salle depuis le 15 janvier. Autre film en salle depuis le 15 janvier, Mémoire d'un escargot, vainqueur au festival d'Annecy, l'itinéraire difficile d'une enfant que les épreuves de la vie vont faire grandir.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Papa disait que l'enfance, c'est comme quand tu as trop bu.
Alouette.
Tout le monde se souvient de ce que tu as fait, sauf toi.
Alouette.
Mais je me souviens de tout.
Il était beau.
On parlait ici, il y a peu, hein, du dernier film de Nick Park et du studio Aardman. Hein. Voilà, c'est Gromit, la palme de la vengeance. Alors, il faut croire que les films d'animation en stop-motion ne veulent décidément pas laisser un pouce de terrain aux mastodontes en 3D des grosses majors, hein, puisque vient de sortir le nouveau film d'Adam Elliot. Alors, Kezako, hein, Adam Elliot. Car oui, ce nom ne doit pas spécifiquement vous dire quelque chose, même si, comme votre serviteur, vous êtes peut-être très amateur de cinéma fait en stop-motion. Eh bien, Adam Elliot, hein, ce n'est pas forcément un nom que l'on a retenu, car même s'il est l'auteur d'un film assez remarqué en son temps, il n'est pas le plus prolifique du monde, puisque ce dernier effort en format long métrage date déjà de 2009. Alors entre-temps, cela vous est peut-être revenu, il s'agit de Marie et Max, hein, qui témoignaient déjà d'un univers tout à fait singulier et un goût pour, non pas un réalisme poétique, mais un réalisme bizarroïde, justement augmenté par l'usage de la technique de la stop motion.
Mon frère jumeau, on avait deux âmes, mais un seul cœur. Un jour, les services sociaux sont venus nous chercher. C'est la dernière fois que j'ai vu mon frère.
Cher Gracie, mes nouveaux parents sont bizarres. Je viendrai te chercher. Je traverserai le grand désert brûlant.
Alors à la mort de son père, hein, la vie heureuse est quand même déjà quelque peu marginale de Grace. Grace, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, mais vole en éclats. Elle est arrachée à son frère jumeau Gilbert et tous deux, hein, se retrouvent dans deux familles d'accueil à l'autre bout du pays et de l'un l'autre. Elle ne s'en sort pas trop mal, hein, puisqu'elle tombe sur une famille assez aimante, hein, qui va faire énormément d'efforts dans un premier temps pour l'acclimater et l'accompagner, hein, dans ses tentatives de surmonter sa tristesse. Malheureusement pour elle, ses nouveaux parents vont se découvrir une passion pour les croisières nudistes et vont aller s'exhiber un peu partout à l'autre bout du monde tandis que Grace dépérit dans sa petite maison. Il y a cependant pire, hein, le pauvre Gilbert lui se retrouve dans une famille, hein, de bigots, hein, qui développe un culte autour de la culture des pommes et dont leur vie est rythmée par les lectures de la Bible et les offices qui vont avec. Alors les deux jumeaux mettent en place un long et régulier échange épistolaire pour se tenir au courant de leur vie misérable tandis qu'ils grandissent petit à petit. Arrive à la puberté, Grace n'a toujours pas trouver grâce ni à ses yeux, hein, ni à ceux de son entourage qui va la brimer. Sa passion pour les escargots continue de grandir maladivement et va constituer un frein, hein, jusqu'à une rencontre miraculeuse avec un jeune homme qui va tout faire pour la séduire. Alors on se doute bien, hein, qu'il y a anguille ou escargot sous roche, hein, que ça va mal se passer et que ça va mal se finir aussi pour Gilbert qui va finir par devoir se rebeller contre sa famille de fanatiques devenus dangereux et incontrôlables. Alors qu'elle s'enfonce dans un désespoir sans fin, elle rencontre Pinky, hein, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille tout en lui témoignant ses recettes toutes simples pour atteindre le bonheur. Alors scoop, hein, ça passe par des cookies à l'herbe, hein, et beaucoup d'irrévérence envers les autorités et tout ce qui est contraignant de manière générale.
Pourquoi t'es déguisée en fourmi ?
Je suis un escargot.
Sympa la coupe ! Allons pas !
Petit doigt a été ma première véritable amie.
Grace, le moment est venu de sortir de ta coquille.
Salopard !
La vie est une tapisserie magnifique. Mais on ne peut la vivre qu'en marche avant.
Résumé comme ça, on le comprend, Mémoire d'un escargot n'est absolument pas pour les enfants. Hein. Alors à la manière de Marie et Max, hein, le réalisateur joue sur un rendu enfantin pour créer un effet de gêne, voire de malaise, hein, lors de pas mal de scènes détonnant avec le style employé. Alors là où ça fait mouche, c'est que bien que ces traits soient enfantins, ils n'en sont pas moins assez sinistres par moments, faisant de l'histoire de Grace et Gilbert un conte des frères Grimm modernes qui ne cachent dès lors plus, hein, les rouages grotesques, effrayants et gênants des travers mis en scène par Adam Elliott. Alors vu qu'il n'y a aucune métaphore autre que celle de l'escargot et de sa coquille employée, hein, dans ce conte cruel, tout paraît plus hypertrophié, cru et agressif, hein, pour les purs et innocents jumeaux et dresse un portrait malade, hein, de nos sociétés modernes, presque fières de leur obscénité. Alors le réalisateur s'est inspiré de sa mère, hein, qui, quand elle était âgée, hein, était une collectionneuse quasi compulsive et aussi d'une de ses amies tout aussi obsédée qui va lui inspirer un trait du visage de Grace. Je vous laisse découvrir lequel. Alors Adam Elliott, hein, s'est demandé si cette propension à collectionner ne relevait pas d'une certaine forme de névrose, ce qui donnera un sujet de film idéal puisque, fidèle à ses thématiques habituelles, hein, Mémoire d'un escargot met en scène des personnages marginaux et fait de la différence le thème central de son récit. En résulte, un film qui utilise, je pense, admirablement bien, hein, tout ce que la technique de stop motion si particulière permet comme rendu féerique mais aussi terrifiant, hein, dans cette vision toute personnelle d'un conte initiatique et de fable d'émancipation. Alors à réserver néanmoins, hein, il faut bien le préciser, à un public averti, surtout après le dernier, c'est gros bits.
Oui. Effectivement, c'est un film pour adultes, un film merveilleux. Alors moi, j'ai eu le plaisir de voir une séance où il y avait une vidéo de Adam Elliott, le réalisateur australien. Et il se trouve qu'il avait un des personnages du dessin animé avec lui. Et il a dit combien de personnages il avait fallu. Il en a fallu plusieurs centaines et plus de 7000 objets qu'il a fallu confectionner. Puisque tu le disais, effectivement, c'est du stop motion. C'est vraiment de la petite horlogerie. Et c'est très artistique. Et il faut beaucoup de temps pour faire du stop motion. C'est pour ça qu'il a fait très peu de longs métrages. Adam Elliott. Nous parlions de Mémoire d'un escargot en salle depuis le 15 janvier.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
Or toi, Manu, la semaine prochaine, tu auras deux films.
Oui, j'aurai Toutes pour une et On the Go.
Et puis toi, Guillaume, un seul.
Oui, moi, sur une histoire de chienne, c'est avec Night Beach.
Et puis toi, Sophia, tu espères toujours voir un film.
J'espère pouvoir jouer avec le feu.
Eh oui, à la semaine prochaine.